Chapitre 5. Les débuts de ce roi qu'on appelle le Bon. Le ciel du roi Jean, certes, je le connais. Je me suis maintes fois penché dessus. Si je prévoyais, bien sûr je prévoyais. C'est pourquoi je me suis si fort dépensé pour empêcher cette guerre, sachant qu'elle lui serait funeste, et donc funeste à la France. Mais aller faire entendre raison à un homme et surtout à un roi dont les astres font barrière précisément et à l'entendement et à la raison. Le roi Jean II, à sa naissance, avait Saturne culminant dans la constellation du Bélier en milieu du ciel. Ces configurations funestes pour un roi, celles des souverains détrônés, des règnes qui s'achèvent hâtivement ou que terminent de tragiques revers. Ajoutez à cela une lune qui se lève dans le signe du cancer, lunaire lui-même, marquant ainsi une nature fort féminine. Enfin, et pour ne vous donner que les traits les plus voyants, ceux qui sautent aux yeux de tout astrologien, un difficile groupement où l'on trouve le Soleil, Mercure et Mars étroitement conjoints en taureau. Voilà un ciel bien pesant qui compose un homme mal balancé, mâle et même assez lourd dans les apparences, mais chez qui tout ce qui devrait être viril est comme castré, jusque et y compris l'entendement. En même temps, un brutal, un violent, habité de songes et de peurs secrètes, qui lui inspire des fureurs soudaines et homicides, incapable d'écouter avis ou de se maîtriser soi-même, et cachant ses faiblesses sous des dehors de grande ostentation. Au fond de tout, un sot, et le contraire d'un vainqueur ou d'une âme de commandement. De certaines gens, il semble que la défaite soit l'affaire principale, qu'ils en aient un secret appétit et ne connaissent de cesse qu'ils ne l'aient trouvé. Être battu complète à leur âme profonde. Le fiel de l'échec est leur breuvage préféré, comme à d'autres l'hydromel des victoires. Ils aspirent à la dépendance et rien ne leur convient mieux que de se contempler dans une soumission imposée. C'est grand malheur quand de telles dispositions de naissance tombent sur la tête d'un roi. Jean II, tant qu'il fut monseigneur de Normandie, vivant sous la contrainte d'un père qu'il n'aimait pas, parut un prince acceptable, et les ignorants crurent qu'il régnerait bien. D'ailleurs, les peuples, et même les cours, toujours portés à l'illusion, attendent toujours d'un nouveau roi qu'il soit meilleur que le précédent, comme si la nouveauté portait en soi vertu miraculeuse. À peine celui-ci eut-il le sceptre en main que ses astres et sa nature commencèrent de montrer leurs malheureux effets. Il n'était roi que depuis 10 jours quand Monsieur d'Espagne, dans ce mois d'août 1350, se fit battre sur la mer, au large de Winchelsea, par le roi Édouard III. La flotte que Charles d'Espagne commandait était castillane, et notre Sire Jean n'était pas responsable de l'expédition. Néanmoins, comme le vainqueur était d'Angleterre et le vaincu l'ami très cher du roi de France, c'était mauvais début pour ce dernier. Le sacre se fit en fin septembre. Monsieur d'Espagne était revenu et à Reims, on témoigna beaucoup de grâce à ce vaincu pour le consoler de sa défaite. À la mi-novembre, le connétable Raoul de Brienne, comte II, rentra en France. Il était depuis 4 ans captif du roi Édouard, mais un captif assez libre, qu'on laissait à l'occasion aller entre les deux pays, car il était mêlé aux négociations d'une paix générale à laquelle nous travaillions fort en Avignon. Moi-même, je correspondais avec le connétable. Cette fois, il venait réunir le prix de sa rançon. Je n'ai point à vous apprendre que Raoul de Brienne était un très haut, très grand, très puissant personnage, et pour ainsi dire le second homme du royaume. Il avait succédé en sa charge à son père Raoul V, tué en tournoi. Il était tenant de vastes fiefs en Normandie, d'autres en Touraine, dont Bourgueil et Chinon, d'autres en Bourgogne, d'autres en Artois. Il possédait des terres pour leur confisquer en Angleterre et en Irlande. Il en possédait dans le pays de Vaud. Il était le cousin par alliance du comte Amédée de Savoie. Un tel homme, quand on vient juste de s'asseoir au trône, est de ceux qu'on traite avec quelques égards, ne croyez-vous pas, Archambault ? Eh bien, notre Jean II, après lui avoir adressé au soir de son arrivée des reproches furieux mais peu clairs, commanda sur le champ de l'emprisonner, et le surlendemain matin, il le fit décapiter, sans jugement. Non, aucune raison avouée. Nous n'avons pas pu en savoir plus à la Curie que vous à Périgueux. Et pourtant, nous nous sommes employés à éclairer l'affaire, croyez-le. Pour expliquer cette exécution précipitée, le roi Jean affirma qu'il détenait les preuves écrites de la félonie du connétable. Mais jamais il ne les produisit. Jamais. Même au pape, qui le pressait dans son intérêt propre de révéler ces fameuses preuves, il opposa un silence buté. Alors on commença, dans toutes les cours d'Europe, à chuchoter, à supposer. On parla d'une correspondance amoureuse que le connétable aurait entretenue avec Madame Bonne de Luxembourg et qui, après le décès de celle-ci, serait tombée entre les mains du roi. Ah ! Vous aussi, vous avez entendu cette fable. Étrange liaison, en vérité, et dont on apercevrait mal, en tout cas, qu'elle ait pu prendre un tour criminel entre une femme sans cesse enceinte et un homme presque continuellement captif depuis 4 ans. Peut-être y avait-il, dans les lettres de Messire de Brienne, des choses pénibles à lire pour le roi, mais si ce fut, elle devait regarder plutôt sa propre conduite que celle de sa première épouse. Non. Rien ne tenait qui pût expliquer cette exécution, sinon la nature haineuse et meurtrière du nouveau roi, semblable assez à la nature de sa mère, la méchante boiteuse. Le vrai motif se révéla peu après, quand la charge de connétable fut donnée, vous savez bien à qui. Eh oui, à Monsieur d'Espagne, avec une partie des biens du défunt dont toutes les terres et possessions furent distribuées entre les familiers du roi. Ainsi, le comte Jean d'Artois en eut grosse part, le comté II. Les largesses de cette sorte font moins d'obligés qu'elles ne créent d'ennemis. Messire de Brienne avait foison de parents, d'amis, de vassaux, de serviteurs, toute une grande clientèle fort attachée à lui et qui aussitôt se mua en un réseau de mécontents. Comptez en plus des gens de l'entourage royal qui ne reçurent ni mine ni miette des dépouilles et en furent jaloux et revêches. Ah, nous avons bonne vue d'ici sur Chalut et ses deux châteaux. Comme ces deux hauts donjons se répondent bien qu'une mince rivière sépare. Et le pays est plaisant au regard sous ces nuages qui courent bon train. La rue ! La rue ! Je ne me méprends point. C'est bien devant le châtel de droite, sur la colline, que messire Richard Cœur de Lion fut durement navré d'une flèche qui lui ôta la vie. Ce n'est point d'aujourd'hui que les gens de nos pays ont accoutumé d'être assaillis par l'anglais et de s'en défendre. Non, la rue, je ne suis point là. Je m'arrête seulement pour contempler. Et certes, oui, j'ai bon pas. Je vais cheminer encore un petit et ma litière me reprendra plus avant. Rien ne nous presse trop. De Chalut à Limoges, si j'ai bon souvenir, il y a moins de 9 lieues. 3h30 nous suffiront, sans forcer le trot. Soit 4h. Laissez-moi profiter des derniers beaux jours que Dieu nous dispense. Je serai bien assez renfermé derrière mes rideaux quand viendra la pluie. Je vous disais donc, Archambault, la façon dont s'y prit le roi Jean pour se faire sa première corbeille d'ennemis dans le sein même du royaume. Il résolut alors de se créer des amis, des féaux, des hommes tout à sa dévotion, liés à lui par un lien neuf, qui l'aiderait en guerre comme en paix et qui ferait la gloire de son règne. Et pour ce, dès l'aube de l'an suivant, il fonda l'Ordre de l'Étoile, auquel il donna pour objet l'exhaussement de la chevalerie et l'accroissement de l'honneur. Cette grande novelté n'était point si neuve, puisque le roi Édouard d'Angleterre avait déjà institué la jarretière. Mais le roi Jean se gaussait de cet ordre créé autour d'une jambe de femme. L'étoile serait tout autre chose. Vous pouvez noter là un trait constant chez lui. Il ne sait que copier, mais toujours en se donnant les airs d'inventer. 500 chevaliers, pas moins, qui devaient jurer sur les saintes écritures de ne jamais reculer d'un pied en bataille, ni jamais se rendre. Tant de sublime se devait d'être signalé par de visibles marques. Jean II ne lésina point sur l'ostentation, et son trésor, qui n'était déjà pas bien haut, se mit à fuir comme tonneau percé. Pour loger l'ordre, il fit aménager la maison de Saint-Ouen, qu'on n'appela plus que la noble maison, tout emplie de meubles superbes, sculptés et ajourés, engravés d'ivoire et autres matières précieuses. Je n'ai point vu la noble maison, mais on me l'a dépeinte. Les murs y sont, ou plutôt y étaient, tendus de toiles d'or et d'argent, ou bien de velours semés d'étoiles et de fleurs de lys d'or. À tous les chevaliers, le roi fit faire une cotte de soie blanche, un surcot mi-parti blanc et vermeil, un chaperon vermeil orné d'un fermail d'or en forme d'étoile. Ils reçurent encore une bannière blanche brodée d'étoiles, et chacun aussi un riche anneau d'or et d'émail pour montrer qu'ils étaient tous comme mariés au roi, ce qui portait à sourire. 500 fermailles, 500 bannières, 500 anneaux, calculez la dépense. Il paraît que le roi dessina et discuta chaque pièce de ce glorieux attirail. Il y croyait ferme à son ordre de l'étoile. Avec de si mauvais astres que les siens, il eût été mieux avisé de choisir un autre emblème. Une fois l'an, selon la règle qu'il avait dictée, tous les chevaliers devaient se réunir en un grand festin où chacun donnerait récit de ses aventures héroïques et des prouesses d'armes par lui accomplies dans l'année. De Clercq en tiendrait registre et chronique. La table ronde allait revivre, et le roi Jean dépassait en renommée le roi Arthur de Bretagne. Il édifiait de grands et vagues projets. On se mit à reparler de croisades. La première assemblée de l'Étoile, convoquée pour le jour des rois de 1352, fut passablement décevante. Les futurs preux n'avaient pas grands exploits à compter. Le temps leur avait manqué. Les janissaires fendus en deux, du casque à l'arçon de la selle, et les pucelles délivrées des geôles barbaresques, ce serait l'affaire d'une autre année. Les deux clercs commis à la chronique de l'ordre n'eurent point à user beaucoup d'encre, à moins que Soulery ne comptât pour exploit. Car la noble maison fut le lieu de la plus grosse beuverie qu'on eût vue en France depuis Dagobert. Les chevaliers blancs et vermeils s'engagèrent si fort au festin qu'avant l'entremets, criant, chantant, hurlant, ivres à rouler, ne quittant la table que pour courir pisser ou dégorger, revenant piquer au plat, se lançant d'ardents défis à qui viderait le plus de hanapes, ils méritaient tout seulement d'être armés chevaliers de la ripaille. La belle vaisselle d'or, ouvragée pour eux, fut froissée ou brisée. Ils se la jetaient par-dessus les tables, comme des gamins, ou bien l'écrasaient de leurs poings. Des beaux meubles ajourés et incrustés, il ne resta que débris. L'ivresse dut faire croire à certains qu'ils étaient déjà en guerre, car ils s'employèrent séant à faire butin. Ainsi, les draps d'or et d'argent qui pendaient au mur furent volés. Or, ce jour même fut celui où les Anglais se saisirent de la citadelle de Guînes, livrée par belle trahison, tandis que le capitaine qui commandait cette place festoyait à Saint-Ouen. Le roi de tout cela eut gros dépit et commença de se complaire dans l'idée que ses plus valeureuses entreprises, par quelque sort funeste, étaient vouées à l'échec. Peu de temps après, survint le premier combat auquel des chevaliers de l'Étoile eurent à prendre part, non point dans un Orient fantastique, mais au coin d'un bois de Basse-Bretagne. 15 d'entre eux, voulant prouver qu'ils étaient capables d'autres hauts faits que ceux du pichet, respectèrent leur serment de ne jamais reculer ni retraiter. Et plutôt que de se dégager à temps, comme Jean Sensé l'eussent fait, ils s'offrirent à être encerclés par un adversaire dont le nombre ne leur laissait nulle chance, même petite. Aucun ne revint pour compter cette prouesse. Mais les parents des chevaliers morts ne se privèrent point de dire que le nouveau roi avait l'esprit bien faussé pour imposer à ses bannerets un serment aussi folle, et que si tous devaient le tenir, il se retrouverait bientôt seul à son assemblée. « Ah ! Voici ma litière !» Vous préférez chevaucher à présent? Moi, je crois que je vais dormir un petit afin de me trouver frais à l'arrivée. Mais vous comprenez, Archambault, pourquoi l'ordre de l'Étoile n'a pas eu grande suite et qu'on en parle de moins en moins, d'année en année.